ondes poétiques.
Au festival Voix Vive, à 7h.
Bonjour, merci d'être là présente. Oui, je dis présente parce que finalement, c'est exclusivement féminin, je vois l'audience. Oui, mesdames. Donc, merci pour cette nouvelle émission, puisque ce sont donc des émissions qui sont enregistrées, réalisées par des radios associatives de l'Assemblée régionale, des radios associatives d'Occitanie. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre de cette émission Onde Poétique, à l'occasion de cette 29e édition du Festival Voix Vive, déjà 29 éditions, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Rossella Paolici. L'ai-je bien prononcé ? Voilà, merci de l'avoir corrigé. Je savais que j'allais mal le prononcer, Paolici. Et grazie mille. Et donc également le plaisir d'accueillir Salah Al-Hamdani.
Bravo.
Bravo.
Hamdani. Mais les H, on le prononce difficilement en français. Donc on l'avale.
Dani.
Voilà, donc deux poètes invités par le festival, poétesse italienne, poète d'origine irakienne, mais français. Ouais, voilà, donc irako-français, on pourrait presque
français,
dire. Salah, si vous en êtes d'accord, hein, on va commencer par...
Je suis toujours d'accord.
Vous êtes toujours d'accord.
Est-ce qu'il est libre, cet homme? Non.
Bon, vous verrez ça après l'émission, madame.
Non, non.
Mais ça va pas loin, c'est... Les dates, c'est après l'émission. Hein. Donc, avec vous, madame Rossella Paolici.
Je vais lire les premiers poèmes.
Vous voulez lire un premier poème et je vous interroge après. Alors, je ne vous ai pas présenté mon camarade, Laurent Keller. Donc, nous sommes tous deux d'une radio d'Alès. Nous sommes venus d'Alès. Laurent Keller et Yves Defago. Voilà. Et nous sommes de Radio Grille Ouverte, pour vous dire. Voilà.
Les mie paroles. Les paroles, les mie, non sanno dire quello che vedono. Cercano la strada, ma non la trovano. Fuggono, cadono, si perdono, rischiano di entrare nel labirinto, di cercare l'uscita senza trovarla. A volte riesco a dire una parola. Il mare negli occhi della donna seduta nella strada, la porta aperta nella stanza oscura, per quanto povera, sul tavolo il bicchiere d'acqua, la lampada che disegna le ombre dei passanti che hanno camminato nel giorno portando i loro sogni addormentati sulle spalle.
Pour donc traduire là, en français, c'est notre lectrice, la Claire Lazius. Merci Claire.
Mes mots, les miens ne savent pas dire ce qu'ils voient. Ils cherchent la route et ne la trouvent pas. Ils fuient, tombent, se perdent. Ils se risquent à entrer dans le labyrinthe, à chercher la sortie, sans la trouver. Parfois, je me risque à dire un mot. Je dis la mer dans les yeux de la femme assise dans la rue, la porte ouverte dans la pièce obscure, si pauvre soit-elle. Le verre d'eau sur la table, la lampe qui dessine, les ombres des passants qui ont marché le jour durant, portant leurs rêves endormis sur leurs épaules.
Merci Claire. Madame. Madame Paolici, pourquoi avez-vous commencé par lire ce premier poème, celui-ci qui est au centre, au milieu donc, de votre recueil? Pourquoi avez-vous choisi d'abord ce texte?
Pourquoi écrire? Ce n'est pas une expérience connue. Continuer. Il y a besoin de chercher les mots, de chercher de ne pas s'arrêter avant à la page blanche.
Mais là, il n'y a pas de page blanche. Dans ce recueil qui s'appelle « La lente danse de la mer Égée », qui a été traduit de l'italien par Marianne Cazzara, c'est publié aux éditions Almanach. C'est un recueil qui tourne autour de la Grèce. Vous êtes italienne, donc on l'a bien entendu. Et la Méditerranée est présente à travers votre écriture. Vous avez un rapport particulier avec cette mer?
Ah, c'est une question très, très personnelle. Mais je vais dire que j'ai raconté ça à Bambina, que j'ai étudié le grec ancien à l'école, à lycée classique. Et j'ai étudié le grec, la philosophie, la tragédie, l'histoire. Mais j'ai rencontré un grec qui est venu étudier à Pisa.
Où vous habitez ?
À Pisa, ou à l'université. Et j'ai été très jeune. Et la première fois que je suis allée en Grèce avec une petite voiture, la 500,
la petite Fiat.
Fiat. Et nous sommes arrivés à Salonique à l'une des nuits.
Donc vous avez traversé tout, ce qui était la Yougoslavie.
Et je suis restée étonnée d'écouter la langue grecque. Je sais que le grec existait, mais écouter les gens qui parlaient la langue grecque et lire les noms des places, des routes, ça, en Grèce, avec l'alphabet grec, était pour moi quelque chose de très fort et de très émouvant. Et d'alors, chaque année, je suis allée en Grèce. Je parle grec mieux que des Français. Et la Grèce, pour moi, c'est un pays réel, mais en même temps, un rêve, une fantaisie. Et elle me parle encore beaucoup de la lumière et de comme la lumière dialogue avec les Noirs. Mais nous avons la responsabilité de continuer à chercher la lumière et de traverser le noir avec un chemin.
Si vous parlez de lumière et de noir, c'est parce que vous êtes également peintre.
Ah oui. Aussi, oui, j'ai dessiné, j'ai peintre et la chercher de les couleurs, de les mélanger les couleurs et de chercher d'approcher les lignes qui dessinent quelque chose. Et souvent, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va à dessiner. Et c'est quelque chose qui part et guide ma main sur les tableaux. Et donc.
Et pour le poème, c'est pareil, vous ne savez pas ce que vous allez écrire. C'est la main pour également qui guide.
Oui, c'est le poème. C'est différent l'expérience qu'on l'écrire, non? Alcune volte, mi si dice?
Parfois,
il va très rapidement. Ta 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 ta. Et autrefois, je suis comme ça, j'attends, et puis arrive les mots, une fantaisie, quelque chose que je vais écrire. C'est pas la même chose, c'est pas la même modalité. Et pour moi, écrire et dépeindre, c'est très important pour conserver ma vitalité, ma énergie, parce que mon travail est un travail très intéressant, que j'aime beaucoup. Mais je suis psychothérapeute et donc j'écoute la vie des autres et les douleurs de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a les classifications psychiatriques, oui, mais chaque personne est unique. Et c'est très important de chercher, de trouver les chemins qui portent à quelle personne. Et trouver les mots et l'imagine qui dit qu'une personne a à l'intérieur de sa. Et un voyage toujours différent avec les personnes.
Pour quelqu'un qui ne sait pas bien parler le français. Nous vous écoutons lire un autre poème donc en italien et avec Claire qui le lira ensuite en français.
Datemi il mare. Non mi dare niente, ma datemi il mare.
Donnez-moi la mer. Ne me donnez rien, mais donnez-moi la mer.
Mi basta qualche briciola di pane e la solitudine che cambia colore e le voci sconosciute che portano altre briciole di vita. Un coro incessante, se si interrompe, sai, che poi riprende. Datemi il mare e non mi importa più del tempo. Datemi il mare e mi libero del tempo. Quella pietra bianca in riva al mare ha fatto un lungo viaggio, chissà da dove è partita. Un frammento insieme ad altri ha viaggiato in un camion costretta a diventare un frammento insieme ad altri. La prendi in mano e ti parla della nostalgia della montagna, ma i suoi occhi erano chiusi, immersa in un mare di pietra. Poi riesce a dire che parla di nostalgia quasi per dovere. Il viaggio l'ha portata davanti al mare che non conosceva. Il suo stupore, dice che preferisce essere un frammento con gli occhi aperti davanti al mare.
Donnez-moi la mer. Ne me donnez rien, mais donnez-moi la mer. Quelques miettes de pain me suffisent. La solitude qui change de couleur et les voix inconnues portent d'autres miettes de vie. Un cœur incessant, s'il s'arrête, tu sais, après qu'il reprend. Donnez-moi la mer, peu m'importe le temps. Donnez-moi la mer, que je m'en libère. Cette pierre blanche sur le rivage a fait un long voyage. Qui sait d'où elle est partie ? Fragment parmi d'autres voyageant en camion, contrainte à devenir fragment parmi les autres. Tu la prends dans ta main, elle te parle de la nostalgie de la montagne, mais ses yeux restent clos, plongés dans une mer de pierre. Elle réussit à dire qu'elle parle de nostalgie presque par devoir. Le voyage l'a conduite devant la mer qu'elle ne connaissait pas. De stupeur, elle dit qu'elle préfère être une pierre, les yeux ouverts sur la mer.
Merci, Claire. Alors, on va quitter les rives de la mer Égée pour aller un peu plus à l'est, peut-être, avec Salah Alhamdani, vers l'Irak. Car, Salah, vous êtes originaire de Bagdad, précisément, que vous avez été obligé de quitter en 1975, je me dis de tête, hein, oui. Vous étiez alors prisonnier politique et vous avez été exilé, et depuis vous vivez en France. Vous êtes retourné en 2004, après la chute de Saddam Hussein, effectivement, dans votre pays, et vous êtes, on pourrait le dire, presque un poète de l'exil.
Oui, on peut, ça ne me dérange pas,
oui.
Même l'étranger...
L'étranger, oui, ça c'est votre tropisme camusien.
Le poète étranger, ça m'intéresse aussi. Hein. Ouais, Léo Ferré, il me dit que je suis un brancardier poète. Parce que je l'ai rencontré à l'hôpital du CHU de Bicêtre où j'étais brancardier, avant que je devienne bibliothécaire. C'était une vie assez truc. Et je l'étais à l'hôpital. Et il a dit, parce que quand je l'ai vu, je dis, est-ce que je peux t'embrasser? Et lui, il était comme ça, avant de retourner en Italie et mourir, Léo Ferré. Et il était là, je crois qu'il avait un problème, enfin une maladie assez grave. Et j'étais brancardier au CHU de Bicêtre. Et j'ai le preuve, hein, c'est un article qui a été publié dans l'Humanité du Dimanche. Donc ils ont dit que Salah Alhamdani est brancardier, il a rencontré Léo Ferré. Et quand je l'ai vu dans la chambre, j'ai dit, Léo, je peux t'embrasser. Alors lui, avec ses cheveux, comme ça, il me dit, d'accord. Alors je l'embrasse.
Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, j'ai traduit ton poème avec le temps en arabe, je ne te connais pas à l'époque. Il retourne, il regarde sa femme, elle était assise sur le lit, il lui dit, un brancardier poète. Voilà pourquoi.
Ouais, Léo Ferré, je sais que vous l'appréciez, mais justement également Albert Camus. Oui. Mais j'aimerais quand même, Sadra Hamdani, je vois que cette année, la 29e édition s'est placée sous le titre « La poésie, chemin de paix ». Qu'est-ce que vous en pensez, Sadra? Parce que vous qui avez connu les geôles du régime baasiste, vous qui avez connu l'exil, vous qui avez connu les deux guerres d'Irak depuis la France... La poésie est-elle toujours un chemin de paix?
Enfin, j'espère. On espère. La poésie, elle ne peut pas changer le monde. Mais elle peut proposer des chemins. Et c'est par là, finalement, que je puisse inspirer quelque chose. Alors, est-ce qu'elle peut faire la paix? Parfois, pas toujours. Parce qu'aujourd'hui, on a des soucis avec un fascisme assez montant en Israël. Et que Netanyahou, c'est quelqu'un qui est criminel de guerre. Et j'ai l'impression qu'il y en a peu de poètes, justement, ils le nomment. Alors que moi, à une certaine époque, avec Saddam, je l'ai nommé. Khomeini, je l'ai nommé. J'ai nommé les salauds qui tuent les gens, au nom de, je sais pas, de religion ou n'importe quoi. Et du coup, est-ce que les poètes aujourd'hui... Je pensais toujours, sincèrement, les poètes, ils font pour être exécutés, fusillés. Non, mais je veux dire que, vu que moi j'étais prisonnier politique et j'ai découvert la poésie en prison politique à l'époque de Saddam Hussein, j'ai milité contre ce régime. J'étais avec les Kurdes, alors que je suis arabe. Donc j'étais le traître. Tu vois, donc tout ça, oui, c'était pour la paix. Quand je suis venu en France, je crois qu'en 2010, j'ai fait deux livres avec un Israélien, juif d'origine irakienne. René Sommeil, il vit jusqu'à aujourd'hui en Israël. Et j'ai fait, c'est moi-même qui a proposé de faire un livre avec lui qui s'appelait Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie. Donc on l'a sorti, trilingue, arabe, français, hébreu. Je suis allé voir sa mère en Israël. J'ai reçu tellement de critiques du monde arabe à l'époque. Donc quelque part, j'ai l'impression, et aujourd'hui, c'est vrai que j'inspire qu'un poète. Israélien qui rentre dedans, quoi. Qu'il dit, oui, je suis pour la paix, tous ces gens-là sont des assassins, et stop. Il faut arrêter cette machine de tuer les gens, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. De deux côtés. La guerre, on ne peut pas de cinq côtés. Personne n'est juste quand il fait la guerre. Il faut arrêter la guerre immédiatement. Donc, je l'ai dit. Est-ce que ça, c'est un engagement? Oui. Parce que je nomme les choses, je nomme les salauds.
À propos d'engagement, dans la lettre d'amour à la Palestine, votre poème, vous écrivez « Pas de paix dans mon cœur pour les meurtriers des innocents, qu'ils soient d'Israël ou de Palestine ».
Bien entendu. Voilà, c'est très clair. Donc si ça, ce genre de phrases, éventuellement un peu de secours, parce qu'il y a des poèmes de circonstances. Les poètes, parfois, il est obligé d'écrire des poèmes de circonstances. C'est-à-dire qu'il y a un événement, et comme je pense toujours que les poètes, ils s'approprient le monde... Le poète, il est c'est une mémoire de nation. C'est une mémoire des peuples, le poète. C'est pour ça qu'il est témoin. Donc, on est en train de témoigner. Il y aura d'autres générations, un jour, ils vont venir. Dire, qu'est-ce qu'ils ont dit, les poètes, à l'époque où il y avait des guerres, où Gaza est rasé complètement. On verra l'histoire. J'ai écrit un livre, qui, je ne veux pas faire un discours là-dessus, ni une propagande. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Une lettre à un ami juif ». Malheureusement, elle est épuisée. C'est-à-dire, deux semaines, les gens, ils l'ont acheté. Mais dedans, je n'ai pas envie de parler trop de ce livre. Je pense qu'il faut l'acquérir, ce livre. C'est un petit livre qui coûte 10 euros. Elle est épuisée, mais on va le remettre sur Internet.
Oui, parce que alors, je signale que ça, là, Alam Dani, a un site sur Internet formidable.
Hein, c'est gentil.
Ah, oui, non, on trouve tout. Hein.
Non, mais je cherche un dictateur qui me fusille. Donc, je mets tout. Je dis, moi, je vous embête. Voilà. En tout cas, c'est vrai, je suis, pardonnez-moi, mais je sors de prison politique, torturé, j'étais parachutiste, commando. Donc j'étais vraiment quelqu'un qui était, ils l'ont appris pour tuer, quoi. Et c'est pour ça que j'ai trahi l'armée. Parce que c'est quand je vois des enfants crier dans des tentes à Kirkuk, dans le nord de l'Irak, les Kurdes militaient depuis toujours. Ils voulaient un État au milieu du monde arabe, et personne ne leur donne. Il n'y a pas que la Palestine qui a des problèmes. C'est vrai que les Kurdes, on parle peu d'eux. On parle des Iraniens, mais les Kurdes, c'est pratiquement 50 millions de personnes qui vivent carrément de l'Union soviétique jusqu'à la Turquie.
Et qui ont été trahis depuis 1921.
Mais depuis toujours trahis ce peuple.
Depuis 1921, lors du traité de Lausanne, puisqu'il devait y avoir un pays, effectivement.
Très bien. Oui. Ben, si aujourd'hui je donne ma voix, ben, je donnerai à ces gens-là.
Alors, on pourrait peut-être entendre votre voix, justement, oui, le poète, hein, parce qu'on entend, le militant, on entend l'homme engagé, on entend l'homme de théâtre, hein, l'homme de cinéma, qu'est Salah Al-Hamdani, mais également, vous êtes là, justement, Salah, comme poète.
Est-ce que vous voulez que je vous lise un poème?
Oui, qui on veut bien.
Il s'appelle Bagdad, mon amour.
Ah ben oui.
Attendez, faut que je...
Avec un titre pareil,
non, sûr. Parce que c'est une... C'est, comment dirais-je, c'est... Voilà, excuse-moi, je suis bien organisé, normalement, comme tous les bédouins. Alors voilà, ça y est, j'ai laissé mon chameau, j'arrive.
C'est un poème que j'ai écrit en 2003. Elle éveille avant qu'on attaque l'Irak. Qu'est-ce qui peut faire un exilé irakien qui attend qu'on va détruire l'Irak? Vous voyez, aujourd'hui, on attend Trump, il dit on va détruire la civilisation de Perse, tout ça. Moi, ça me fait vibrer. Je dis, c'est pas vrai. Quelqu'un qui dit ce genre de mots tranquillement, on va détruire une civilisation. Je veux dire, c'est scandaleux que les gens doivent sortir dans la rue, quoi. Ça va pas, quoi, ce type. Et à l'époque, j'étais dans un HLM à Paris, 2003, et j'attends qu'on va attaquer Bagdad. Je dis, ça y est, mon pays, il va disparaître. Il y avait cette dame qui a déjà piqué tout. Elle était un agent des États-Unis, et maintenant, ils vont détruire l'Irak. Et dans une HLM, une petite pièce, qu'est-ce qu'on peut faire, sincèrement, quand on est exilé et on voit que ses parents, ils vont être tués, c'est terrible. Et donc, j'écris un poème qui s'appelle « Bagdad, mon amour, avant le jour heureux ». Je vais vous lire, s'il vous plaît. « Tu n'as à te crucifier ni au bord de la page d'une histoire qui n'est pas tienne, ni au rythme de mort qui couvre tes fluos, car il n'y aura nulle part d'écrit pour soulager ta douleur. » Tu n'as pas à te crucifier aux rives des ruisseaux qui saignent ton corps quand le frat essuie le secret de son âme à la naissance de nouvelles défaites. Je le sais, aucune blessure ne mérite une guerre. Tu n'as pas à te crucifier à la tombée de la nuit alors que tu n'as pas fermé tes prières sur les corps de palmiers, car il n'existe pas d'assassin honorable. Tu n'as pas à te crucifier pour la cendre des calamités, pour le tombeau de tes dieux, ni pour la croyance d'une humanité moribonde. Bagdad, mon amour, ni fils, ni père, ni dieu. Aucun prophète couronné par l'Église ne sauvera ton âme, ni celui de la Mecque, ni celui de ceux qui refusent le partage des oliviers en Palestine. Voilà mon calepin sur la guerre, des années d'exil pliées dans une valise, trop longtemps abandonné au rêve du condamné. Voilà ma part de victime, ma part de lune, ma récolte de néant, ma part de poussière, de mots et d'écrits. Voilà mon malheur, comme une virgule verrouillant un trait d'encre. Bagdad, mon amour, j'étais accroupi dans le coin de la page, à l'abri des jours arides, et loin du torrent de sang qui emporte le nom des fusillés avec le silence des hommes. Bagdad, mon amour, assis comme un bédouin dans un mirage, allongé sur mes rivages, j'y chérissais mon propre linceul, loin de la croix, de la paume de Fatma et de l'étoile de David, et loin de leurs livres, de leurs guerres, errant dans les sables de dunes, de la steppe à la ville, je traîne mon corps de saison en saison. Je te tremballe du canapé au miroir, de ma chambre à la rue, entre mon écriture et ma solitude, à l'abri de leur cimetière, de leur martyr, de leur morgue. Bagdad, mon amour, tu n'as pas à grelotter au seuil de ces débris du jour. Une civilisation n'est dressée pour tuer, à violer ta virginité. Bagdad, ville à jamais insoumise à son bourreau, sa dame, tu n'as pas à gémir à la selle révélation de cette hégémonie. Ceux qui s'agitent autour de ton corps à l'agonie, ces libérateurs, sont ses complices. Bagdad, ma blessure, mon père l'ouvrier est mort sans connaître la joie. Ma mère a égaré sa jeunesse dans les miroirs. et le seul témoin de mon premier chagrin sur ta poitrine est le souffle de sable, le ciel étoilé et les regards de Dieu sous l'appel de la prière. Madina Tossalam, cité de la paix, amour dans l'âme de l'écriture, j'aurais tant voulu aujourd'hui que l'homme n'ait jamais découvert le feu. Il est maudit d'avancer ainsi dans son propre vacarme. Cette terre qui m'a fait naître aujourd'hui mise à mort. Ô mère, je veux retourner dans ta chair pour écouter les battements de ton âme, pour me désaltérer au balbutiement de ton souffle.
Laurent. Merci, Salah.
Dans les textes que vous avez écrits, ce que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la coupure qu'il y a entre l'enfance et puis l'homme que vous êtes devenu après cet exil. Et c'est le passage du temps, l'enfance associée au cerf-volant et au, voilà, la ville, le sable de Bagdad et de là où vous habitiez. Et puis, ce passage du temps, et c'est la question que je poserai également à Rossella Paoliki, parce qu'il y a aussi, différemment, mais une notion avec le temps. Mais à l'échelle d'une vie, vous êtes devenu un autre homme, et il a fallu vous réconcilier avec ce nouvel homme. Et il y a un poème dans lequel on voit la réconciliation, c'est quand vous parlez de votre petite fille, Manon. Et là, j'ai identifié là une réconciliation possible.
C'est vrai.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Je disais, quand je suis venu en France, quelques temps plus tard, j'ai compris que finalement, Bagdad m'a fait naître et la France m'a fait homme. Ça ne vaut pas. Ça, c'est lié à une reconnaissance de ce pays. C'est-à-dire, quand je suis venu, j'étais pratiquement analphabète. Moi, je n'ai pas un certificat d'études. Et finalement, c'est des Français qui m'ont inscrit à Paris 8. Je n'avais pas de diplôme. Ils m'ont présenté au responsable de l'université. À l'époque, c'était à Vincennes. Et ils ont dit, il faut inscrire ce jeune homme. J'avais quoi, 23 ans. Je suis venu l'inscrire à la fac. Et moi, j'adorais. Je ne connaissais même pas déjà l'école. Et j'ai dit, ah oui, l'université, moi, j'aimerais bien. J'ai aucun moyen d'aller à l'université ou d'être élève, en tout cas dans une université. Et c'est la France qui m'a offert ça. Imaginez-vous qu'avant, quand je suis venu en 75, c'est jadis, ça me dirait que ça fait un siècle, et ben, il y avait des universités pour les gens, pour les pauvres gens. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et ça me chagrine. Et donc voilà l'homme aujourd'hui qui surveille, qui regarde, qui guette. Et comme je suis un homme du désert, je suis un vrai aigle. Et je sens que cette culture, je suis désolé, on a des problèmes, beaucoup de problèmes en France culturellement. Et du coup, finalement, on parle des exilés parce que c'est l'honneur de la France, mais on ne parle pas de Français, ce qu'ils subissent aujourd'hui, cette violence. Imagine de noter un papier pour aller une heure, je ne sais pas où, pour le Covid, tu dois noter un Français qui note, qui dit, je peux aller chercher du pain. Mon Dieu, je dis, il y a un problème quand même. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis témoin. Voilà, c'est pour ça.
Tu avais une question pour Rossella également.
Oui, pour la transition, c'est sur le passage du temps. Et on a vu qu'avec la Grèce, il y a toute l'antiquité grecque qui accompagne. Mais dans les textes que vous écrivez, c'est la maison qui a vu habiter des locataires qui nous ont précédés. Et vous en gardez une trace, et ça a quelque chose qui résonne en vous. L'existence de ces maisons qui ont connu d'autres vies. Et votre vie, et justement ça vous fait réfléchir, parce que vous avez à un moment ce poème où vous dites « La maison, oui, il y a tout le temps, et moi j'ai un problème parce que je vais arrêter un jour, et ça va me poser problème. » Ma vie va s'arrêter un jour, c'est votre problème à un moment. Vous avez un poème là-dessus.
Je pense je voudrais répondre à sa question. Et ce que dit
Salah.
Sur la mémoire, sur la nostalgie, sur la maison que nous avons quittée, sur les maisons anciennes. Et moi, je n'ai pas vivre moi la perdita.
La perte.
La perte de la maison, oui, le temps qui passe. Mais je vis avec mon ex-mari grec, qu'il a vécu en Italie, toujours. La tragédie de non-retour à son pays, d'avoir quitté la famille. Et j'ai, avec lui, il est arrivé à moi les douleurs et la difficulté de comment faire comme ça. Et donc, je pourrais lire un texte qui va toucher ces thématiques, ces questions. Si chiamava Febo, si chiamava Febo, il greco che guidato da un sogno aveva lasciato Atene. Sedeva in un paese straniero all'ombra di mura antiche, in una città attraversata dal fiume. Seduto, non vedeva il fiume, come un dio ne indovinava il corso, il corpo sinuoso, la danza degli uccelli che tessevano trame effimere, le voci segrete, il cammino degli uomini dentro e fuori le mura, quando la fonte si sarebbe fermata e quando avrebbe ripreso il suo canto. Accettato l'esilio, il suo paese era diventato più piccolo. La Grecia era ora per lui quel poco di terra all'ombra delle mura. E il fiume invisibile, a sera però, una luce improvvisa si accendeva nei suoi occhi e illuminava il versante di una collina di ulivi. Nel verde argento delle foglie, il corpo, il volto ancora giovane di una donna, si specchiava. Riconosceva qualcosa di suo, forse quella linea che attraversava le guance e la voce che diceva: «Cosa aspetti?» Di chi era? Ascoltava i giovani che di notte imitavano il grido dell'uccello. «Iemu, iemu, ghirna spiti!» Parlavano la sua lingua senza sapere cosa dicevano. «Iemu, iemu, ghirna spiti! Mon fils, retourne à la maison!»
Il s'appelait Phébus. Il s'appelait Phébus, le grec guidé par un rêve, qui avait quitté Athènes, était assis dans un pays étranger, à l'ombre de murs antiques, dans une ville traversée par le fleuve qu'il ne voyait pas. Tel un dieu, il en devinait le cours, le corps sinueux. La danse des oiseaux qui tissait des trames éphémères, les voies secrètes, le chemin des hommes, au-dedans et au-dehors des murs. Quand la source serait tarie, et qu'il aurait repris son chant, il dirait oui à l'exil, son pays rétréci. Désormais, la Grèce était pour lui ce petit bout de terre à l'ombre des murs et le fleuve, invisible, le soir pourtant, à l'improviste une lumière s'enflammait dans ses yeux, illuminait le versant d'une colline d'oliviers. Dans le vert argenté des feuilles, le corps, le visage encore jeune d'une femme, s'y reflétait. Reconnaissait-il quelque chose de lui-même, cette ligne qui traverse les joues peut-être, et la voix qui disait « Qu'attends-tu ?» À qui était-elle cette voix ? Il écoutait la nuit les jeunes qui imitaient le cri de l'oiseau.
« Iemo, iemo, ghirna spiti. »
Il parlait sa langue sans savoir ce qu'il disait.
Iemo, iemo, girna spiti. Mon fils, retourne à la maison.
Mon fils, retourne à la maison.
Bravo. Bravo, Claire, bravo. Merci, Rossella. À un moment donné, je me tournais vers Salin, je parlais de poète de l'exil, et j'ai trouvé justement dans vos, chez vous, Rossella, ce poème, justement, ce début de poème, Naxos, puisque les îles sont très présentes hein, chez vous. Il y a Mykonos, Akrinos, Naxos. Nous sommes tous deux exilés d'un même exil, ou peut-être pas, d'un exil différent. J'ai trouvé là qu'effectivement, vous étiez là, à ce moment-là, tout à fait en rencontre, l'un comme l'autre. Ça va ?
Oui, tout à fait. Mais les Italiens, ils ont subi l'exil avant, hein, avant moi. Hein. On connaît leur histoire, c'était... Oui, oui, tout à fait. Juste, je reviens sur... sur...
Nous, moi, non. Mais ma famille a
vécu
la dictature fasciste.
Oui, bien sûr.
Que c'est,
Mussolini,
que
oui, Mussolini.
Très,
là,
très oui, oui. Horrible.
Bien sûr. Oui, je voulais revenir sur les questions tout à l'heure, sur la... Comment un exilé, il reçoit dans la vie une petite fille. Et le problème, c'est des déracinements. Parce que moi, je n'ai jamais pensé, je peux voir des racines ici. Et finalement, depuis mon arrivée ici, je voulais fonder une famille et de faire des enfants et de chérir ce pays où je vis, tout ça. Et c'est vrai que je n'ai pas réussi le début. J'ai fait des enfants après premier divorce, un enfant. Je ne connais pas. Deuxième mariage, trois enfants, divorce. Putain, je dis, je n'y arriverai pas, quoi. Tu ne peux pas faire une famille. Et du coup, ma fille, la première, sa maman est française de Morvan, elle m'a donné une petite fille. Et là, d'un coup, j'ai senti que ça y est, il y a des racines qui poussent. Et j'ai dit, ça y est, ce pays, finalement, que je traîne sur le trottoir, méconnu, à l'étranger. Et j'étais une fierté de dire, ça y est, finalement, c'est mon pays maintenant. J'ai que des enfants qui sont, des petits-enfants qui sont nés. Maintenant, j'en ai cinq. Hein. Bientôt, je vais acheter des chiens et des chats aussi. Je fais des choses comme les Français. Et donc, tu vois, c'est...
voilà. Alors, il est rare qu'en poésie, on ne parle pas d'amour à un moment donné. Et Salin, vous l'avez fait avec un poème que j'ai trouvé très beau, à la fille de l'Aubrac, dédié à la fille de l'Aubrac.
Oui, tout à fait. Oui, oui, ben, quand je suis allé à Bagdad, je n'ai pas le poème, malheureusement aussi, parce que comme j'ai de nouveaux livres, c'est assez compliqué. Je suis allé voir ma mère après 30 ans d'exil, et du coup, les Américains, leur arrivée à Bagdad, dans les chars, hein, ils tournent sur n'importe quel trottoir, ils tout cassent, ils écrasent les maisons, je l'ai vu. Hein. Et ils ont créé beaucoup de cafés Internet. Ben oui, parce que les Américains, il faut qu'ils communiquent avec leur famille, tout ça. Et donc, j'ai profité, moi, de communiquer avec Isabelle à Paris, et je lui ai envoyé des poèmes. Et bien entendu, elle est de l'Aubrac d'origine. Et moi, j'adore l'Aubrac. Hein.
J'ai le poème, là.
Ah, c'est génial. Ben, tu peux le lire.
Ben non, c'est toi qui l'as écrit.
Non, vas-y, ça me fait plaisir de l'entendre, tiens.
OK. Éveil de l'impossible à la fille de l'Aubrac, encore une fois. Oui. Ma bien-aimée, tu es mon horizon. Non pas un terme, mais une brèche caressante où le réel s'évapore et glisse lentement dans un vertige qu'aucun raisonnement n'atteint. Tu es la lueur furtive au bord de ma nuit, une braise indomptée qui lacère l'ombre d'un monde infâme, un monde qui laisse mourir là-bas ceux qui ont crié leur vie jusqu'à se taire. Parfois, je hume un peu de ma mère lorsque l'on coupe du pain chaud, et dans la gorge sombre des tunnels de l'exil, là où des ombres s'allongent, de grands chevaux muets galopent à la frontière de l'oubli. Parfois, je surprends ma mère dans les bras tremblants d'une aube inachevée, une aube qui retient son souffle avant de naître. Elle seule savait que le monde peut s'effondrer sous le poids d'espoir illimité. Et toi, ma bien-aimée, tu es ce souffle venu d'un temps décousu, un murmure arraché à des heures qui ne m'appartiennent plus. Un temps où le mystère rit sur les visages des hommes, où les ruelles de l'enfance s'ouvrent d'elles-mêmes pour laisser déambuler des dunes égarées. Aujourd'hui, je marche vers une patrie comme on marche vers un mirage avec la lucidité d'un naufragé, la fin d'un rêveur, prêt à boire la steppe entière pour une seule goutte de mémoire. Ma bien-aimée, tu es mon horizon, mais aussi cette bête obscure levée sous ma peau, le souffle et sa brûlure, l'orage et sa clairière, et cette contradiction qui perpétuellement m'érige, me fracture et me rebâtit.
J'adore ça là. Non mais ça me fait plaisir d'attendre, parce que c'est vrai que souvent on écrit, on n'attend pas. C'est génial, hein. Il est beau, hein.
Ah, il est très beau ce poème, oui.
Non, non, toi, tu es beau.
Vous deux, vous êtes.
Merci beaucoup.
Ouais, dans sa
elle va nous inviter par du champagne, elle a l'impression, hein, ça va.
Bon, on va peut-être faire parler des poètes, hein. Rossella.
Alors, maintenant, je vais chanter. Oui. Pour faire écouter la mélodie de la langue grecque, en chanson grecque.
Ah, chanter.
Oh, oui.
Ça marche?
Super. Ah oui, on chante debout.
Sipna mikro muke akuse κάποιο μινόρε της αυγής για σένα ναι είναι γραμμένο κάποια ψυχή για σένα το παραθύρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά ματιά και ας σβήσω πια τότε μικρό μου μπροστά στο σπίτι σου. Σε
oui, on va s'arrêter là parce que je crois que c'était très beau. Puis je crois que là, ces jeunes gens également ont besoin maintenant de déplacer le matériel. Les poèmes donc de Rossella Paolik sont à trouver donc sur la place du la lente danse de la mer Égée, donc Voix Vive et publié par Almanach. Celle-là, c'est vos poèmes. Sont publiés notamment chez Bruno Doucet.
Oui, j'ai des livres de Bruno Doucet, il y a Almanach aussi, il y a notre édition aussi, oui, ils sont un peu partout dans le marché.
On les trouve donc sur le marché de la poésie, là, tout à l'heure.
Merci.
Donc, sitôt à la fin de cette émission, consacrée donc cette fois-ci par Radio Grille Ouverte pour Ondes Poétiques. Merci, Laurent.
Merci.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci,
merci beaucoup.
À vous.
Ah, c'est beau, elles sont bien, magnifiques.
C'est possible.
C'est très beau, c'est un cadeau. C'est un cadeau, voilà.
Ondes Poétiques, un plateau radio en direct dans les rues de Sète à l'occasion du festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée. Une émission aujourd'hui présentée par Yves Defago avec Laurent Keller. Les deux derniers recueils des poètes invités sont parus tous les deux aux éditions Almanach. Rossella Paolicchi, La lente danse de la mer Égée est parue en 2025 chez Almanach. Et Salah Alhamdani a fait publier Feuilles vives en 2026 aux éditions Almanach.
Ondes poétiques. au Festival Voix Vive à 7 ans.